le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce dimanche matin. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque dans le sillage de la fête de la musique, nous allons aujourd'hui recevoir des musiciens, écouter de la musique et peut-être découvrir une nouvelle façon d'écouter et de penser la musique et puis aussi de parler aujourd'hui de réconciliation. Alors nos invités sont Béatrice Rebel-Petit, qui est violoncelliste, Julien David Petit, qui est saxophoniste, et puis nous recevrons aussi Gabriel Monet, qui est pasteur de l'église adventiste. Plus de détails dans un instant, mais tout de suite, place à la musique. Donc cette musique pour commencer cette émission, Terk, c'est le titre de ce que nous entendons. C'est une improvisation multi-originelle, je dirais, avec beaucoup de musique orientale. Bonjour à tous les deux, Béatrice Rebel-Petit et Julien David Petit. C'est donc vous qu'on entend là avec des amis à vous.
Tout à fait, oui. Pour être plus précis, c'est l'ensemble Color Back qui réunit deux couples qui partagent leur foi au travers de ce projet. Donc Béatrice et moi-même, et aussi Jessica Talek et Philippe Talek. Donc voilà, deux amis musiciens.
D'accord. Alors, c'est pas simplement de la musique, c'est une démarche hein, que vous nous proposez avec ce projet. Color Back, on va reparler de ce titre, mais avant tout, la musique pour vous, c'est plus que la musique. Parlez-nous un petit peu de comment vous vivez cet état de musicien.
La musique est pour nous un véritable message et elle est porteuse de messages. C'est un vrai moyen d'expression, un langage en soi où notre instrument peut devenir comme le prolongement de notre âme. J'aimerais peut-être juste évoquer Heinrich Müller, qui était un poète et théologien du XVIIe siècle et qui a beaucoup inspiré Jean-Sébastien Bach. Voici ce qu'il écrivait. « Le Saint-Esprit est le vrai maître de la musique. Sans lui, notre chant est froid et mort. Le Saint-Esprit est le doigt de Dieu qui doit émouvoir le cœur de façon à faire chanter la bouche. » Il distinguait donc... un chant intérieur qui naît dans la prière, le recueillement, tout ce qui a trait à l'étude de la parole, et l'extériorisation de ce chant qui est une forme de méditation en musique, en fait.
D'accord, alors là, on voit tout de suite pourquoi vous êtes invité dans cette émission. On sent que la foi joue vraiment un rôle important dans votre musique.
Oui, la mort et la résurrection de Jésus ont été le fondement de notre foi. Comprendre ce qu'est la résurrection de Jésus pour nous aujourd'hui, c'était le premier fondement, le socle de cette foi. Et c'est un don de Dieu. Hein. La parole dit clairement, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cette foi qui transforme, elle produit un changement intérieur. Elle construit une vie, elle nous a construit pour aussi partager cette vie à deux dans le cadre de notre couple. Et puis, elle a orienté toute notre démarche musicale en tant que musicien.
Alors justement, comment elle a orienté cette démarche musicale, votre foi ?
Disons que c'est vrai que rapidement, après cette rencontre, parce que c'est une rencontre je crois, avec notre créateur, une rencontre personnelle, automatiquement, on s'est senti poussé quelque part à faire des projets qui étaient le prolongement de cette foi, le prolongement de cette croyance. Et donc on a réalisé plusieurs choses. On a commencé par un spectacle qui associe autour du dessin sur sable des musiques juives et musiques occidentales. Et tout ça, bien sûr, réuni autour de la parole, autour de versets bibliques. Donc voilà, on a commencé à mettre en place des spectacles, des projets qui expriment totalement notre foi.
Alors ça, vous faites allusion au spectacle « Une voix dans le désert ».
Oui.
C'est très joli, très méditatif aussi. Hein. Deux extraits, on peut trouver sur Internet, je crois.
Oui, dans ce que... on a été poussé à aller chercher dans les racines de notre foi chrétienne. Et on a aimé chercher dans tout ce qui pouvait... concernait le répertoire juif, donc en passant par le savant, donc des compositeurs juifs, mais aussi le populaire. Et il y a tout ce folklore juif au travers du klezmer, la musique klezmer d'Europe de l'Est. Voilà, donc c'était ce premier projet musical qui a été mis en scène au travers de notre spectacle.
D'accord. Alors aujourd'hui, on va entendre des extraits de votre dernier projet, qui est en cours de réalisation encore. Hein.
Oui. Alors, ça fait 3 ans finalement qu'on travaille dessus, puisqu'on est... C'est une première pour nous. On est à la fois compositeur, interprète. Voilà, on a dû écrire toutes les musiques avec nos deux amis, Jessica et Philippe Talek. Et ce projet, là, vous allez entendre des extraits dans l'émission de la pré-production.
D'accord.
Le CD, lui, va venir début janvier. Voilà. Donc
on est vraiment en avant-première. Là,
exactement.
Donc un extrait là qu'on va découvrir, vous parliez des racines de votre foi, des racines juives, et là vous nous proposez une prière juive justement qu'on va entendre.
Commencez par Avinu Malkenu, donc qui est une prière juive qui est mise en musique par Max Janowski. Donc là, c'est pas une composition de notre part. Hein. Pour le coup, on interprète simplement cette musique.
D'accord.
Il n'y a pas de paroles, mais c'est les instruments qui sont censés paroles.
Du parler. Coup, vous l'avez réharmonisé.
Exactement. Enfin, réharmonisé. Disons qu'on a adapté à notre formation.
Voilà.
Voilà cette musique.
Notre Père, notre Roi, entends nos prières. Nous avons péché, nous nous humilions devant toi. Notre Père, notre Roi, aie compassion de nous et de nos enfants. Mets fin à la peste, la guerre, la famine. Fais disparaître la haine et l'oppression de la terre. Inscris-nous dans ta bénédiction dans le livre de vie de la rédemption.
Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Aujourd'hui, une émission particulière, puisque dans le sillage de la fête de la musique, nous recevons des musiciens, Béatrice Rebelle-Petit, qui est violoncelliste, et Julien David Petit, qui est saxophoniste, qui font partie de l'ensemble Colorback dont nous venons d'entendre un extrait tout de suite. Alors, pour revenir dans le vif du sujet, votre musique, vous la dédiez, on va dire, comme ça, pour l'instant, à la réconciliation. Je l'ai annoncé tout à l'heure au début de l'émission, c'est un peu le thème central de cette émission, mais aussi de votre travail et tout à l'heure de la réflexion biblique qu'on aura avec le pasteur Gabriel Monet. Pourquoi la réconciliation? Comment la réconciliation dans votre musique?
Oui, alors effectivement, la réconciliation est un mot-clé pour nous, car il renvoie à toute l'expérience que nous avons personnellement avec le Seigneur. Donc il y a à la fois le domaine de la réconciliation sur le plan spirituel et qui influe sur le côté musical. Pour nous, réconciliation veut dire rencontre avec la personne de Jésus, le Messie d'Israël. Dieu s'est rendu visible en envoyant son Fils et qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et cette rencontre a redonné le sens de nos vies et nous a donné la direction, l'espérance qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Et le pendant, en fait, de cette expérience se traduit dans notre projet musical, puisque ce projet a eu besoin d'une ligne directrice, et c'était cette direction spirituelle. Donc la réconciliation musicalement, elle va se traduire par ce besoin de réunir juifs et non-juifs ensemble, et donc se faire rencontrer les musiques juives et orientales avec la musique de Bach. Voilà, c'était un gros défi qui s'est présenté à nous.
D'accord, donc que vous mettez en forme. Donc dans cet ensemble Colorback, peut-être un petit mot sur ce nom, Colorback.
Alors, Colorback, il y a un petit jeu de mots. On entend couleur dedans, mais il y a aussi col, la voix en hébreu.
D'accord.
Bach donc représente, on va dire, toute la partie occidentale. C'est pas uniquement limité au compositeur Bach chrétien, mais Jean-Sébastien Bach, mais voilà, c'est un peu la musique occidentale. Et or, pour nous, c'est le Messie, c'est la lumière. Donc, on voit que voilà, ce projet est vraiment centré principalement sur le roc, sur la pierre,
d'accord,
sur la pierre angulaire, sur le Messie. Voilà, c'est un peu.
Et peut-être encore un petit mot sur votre formation, sur les instruments, parce que là aussi, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'harmonisation, la réconciliation.
C'est vrai que c'était pas un projet très simple dès le début, puisque on est parti nous de la rencontre humaine avec nos deux amis, nos deux collègues, et on a trois cordes et un saxophone.
Oui,
un saxophone,
c'est original, c'est pas une formation très courante.
C'est difficile à mettre en musique, oui. À équilibrer. Donc c'était voilà un des challenges à relever, mais c'est ce qui nous a poussé à écrire nous-mêmes la musique et qui nous a poussé dans nos retranchements. Donc ça, c'était très intéressant.
D'accord. Allez, place à la musique. Tout de suite, on écoute un extrait qui est plus, cette fois-ci, dans l'ordre du mélange, c'est ça? Donc, pouvez-vous nous en dire quelques mots?
Oui, Euphrate. On a choisi le nom Euphrate pour évoquer le fleuve qui traverse finalement plusieurs pays, de la Turquie en passant par la Syrie, l'Iran, l'Irak. Il y a comme un flux, en fait. Et puis, Euphrate... c'était la réunion de la liturgie juive au travers du Kol Nidré, le Kol Nidré qu'on a mis en musique, le Kol Nidré de Samuel David. Et ce Kol Nidré, c'est le chant qui est chanté dans la communauté juive lors du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et Jésus est aujourd'hui celui qui nous a pardonné. On avait envie de remettre cette source, le Kol Nidré, avec les harmonies de Jean-Sébastien Bach, et en l'occurrence l'aria des variations Goldberg, une pièce que Bach mentionnait comme étant l'apaisement de l'âme. Et on a utilisé comme socle l'harmonie de cette aria, dans laquelle on a imbriqué une danse orientale qu'on peut entendre là maintenant.
Et ben on va l'écouter.
Thank you.
donc Euphrate, cette mélange musical. Alors maintenant, on va avec Gabriel Monet, qui est professeur de théologie pratique à la faculté de Collonges sous Salève. Il va nous parler de la réconciliation d'un point de vue théologique. Et je pense qu'on va retrouver pas mal de choses que vous nous avez évoquées par votre musique. Donc, Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette musique est déjà un message, mais vous pouvez nous parler de la réconciliation d'un point de vue directement biblique.
Oui, parce que l'idée de réconciliation, elle est pleinement engagée, ancrée dans toutes les histoires, tous les récits et tous les textes de la Bible. L'un des plus beaux exemples, peut-être, de réconciliation a lieu lorsque les frères jumeaux Jacob et Ésaü mettent fin à leur conflit. Jacob, qui retourne en Canaan et qui appréhende la rencontre avec son jumeau, va finalement changer son regard et puis tomber dans les bras de son frère. Alors, le mot « réconciliation » n'est pas présent dans ce récit, ni d'ailleurs dans aucun autre récit de l'Ancien Testament.
Oui, alors on le trouve peut-être dans le Nouveau Testament quand même.
Effectivement, dans le Nouveau Testament, cette fois le mot apparaît formellement, même si donc l'idée était déjà présente, bien sûr. Mais c'est Jésus qui va l'employer, mais une seule fois, dans le Sermon sur la montagne, pour montrer que la réconciliation avec notre prochain devrait être un préalable à l'adoration. On ne peut pas finalement adorer Dieu si on ne s'entend pas avec celui qui est à côté de nous. Mmh. Et donc c'est surtout Paul, l'apôtre Paul, qui va l'utiliser. Et il le fait dans plusieurs de ses épîtres, notamment dans son épître aux Éphésiens, qui a été évoqué par Béatrice et Julien, et qui a été source d'inspiration donc pour eux et leur musique. Alors pour Paul, la réconciliation décrit d'abord la relation entre les hommes et Dieu. Paul insiste pour dire que c'est Dieu qui nous a réconciliés en Jésus-Christ. Ceci étant, la réconciliation verticale entre Dieu et les humains est appelée à déboucher donc sur des attitudes de réconciliation entre les humains.
Alors, vous pouvez peut-être nous parler de ce fameux texte où Paul parle de réconciliation ?
Oui, alors je vous propose de l'écouter peut-être pas à pas en lisant quelques versets donc de ce deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul vient de montrer que les humains sont tous pécheurs. Et puis il affirme, je cite, « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. » Paul introduit là l'idée de la réconciliation. Il le fait en établissant le fait qu'il existe donc une distance à combler. Ici, ce n'est pas prioritairement une distance géographique, mais vraiment une distance religieuse, idéologique, relationnelle. D'ailleurs, on dit volontiers qu'on prend de la distance vis-à-vis de quelqu'un avec qui l'on ne s'entend pas ou plus. Si on se souvient des rapports que les humains entretenaient avec Dieu dans le récit biblique de la création, ils sont décrits comme étant de l'ordre de la proximité, de la communion, de l'harmonie. L'irruption du péché a mis de la distance, au point qu'Adam et Ève sont même, après avoir mangé du fruit défendu, obligés, ou en tout cas ils prennent l'initiative de s'éloigner dans le jardin d'Éden et se cachent de Dieu. Et c'est cela la véritable définition du péché. Certes, c'est la non-obéissance ou la non-application d'une loi, mais c'est plus fondamentalement la rupture d'une relation. Or, s'il y a éloignement, d'une certaine manière, la solution au péché est un rapprochement, une réconciliation, comme nous allons le voir dans la suite du texte.
Mais tout de suite, on retrouve un peu de musique avec le quatuor Colorback et un extrait Shamaïm.
Thank you.
Voilà donc encore un extrait du quatuor Colorback. On continue avec vous, Gabriel Monet, et on parlait du péché qui a introduit une distance entre les hommes et Dieu, et la réconciliation qui est en fait le fait de combler cette distance.
Oui, et c'est donc Jésus-Christ qui rend cette réconciliation possible. Paul, donc, dans ce deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, continue ainsi. C'est Jésus-Christ, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a voulu, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Le texte est fort ici. C'est le sang du Christ, c'est sa chair, c'est au moyen de la croix que la réconciliation est possible. La mort de Jésus sur la croix est donc intimement liée à cette notion de réconciliation. Mais le sens de la mort de Jésus reste en partie mystérieux. En tout cas, si riche qu'il est difficile de mettre en évidence toute sa complexité.
Alors du coup, évidemment, on se pose la question pourquoi Jésus est mort, mais surtout pourquoi ça changerait quelque chose à ma vie aujourd'hui.
Exactement, d'une certaine manière, comprendre cette réconciliation verticale entre Dieu et les hommes implique de saisir un tant soit peu le sens de cette mort du Christ, et en soi et puis pour nous. Or, diverses explications théologiques ont été données. Mais finalement, on peut tout de suite revenir à la Bible et à Paul, qui lui-même parle abondamment du sens de la mort de Jésus. Et c'est tellement mystérieux et complexe à comprendre qu'il le fait au travers de quatre images, quatre métaphores tirées de la vie quotidienne de ses lecteurs de l'époque pour essayer de montrer quatre facettes de ce que Jésus a accompli à la croix. Alors, premier lieu, première scène, c'est le temple où avaient lieu les sacrifices. Et Paul va parler là, alors je vais dire des gros mots, excusez-moi, mais va parler de propitiation ou d'expiation. Dans cette optique-là, on en revient à cette notion de sacrifice. Et là, du coup, Jésus est l'agneau de Dieu qui est offert, qui s'est offert pour l'humanité. Deuxième lieu, deuxième scène, la place du marché, où s'opèrent diverses transactions, on achète plein de choses pour le quotidien, mais où il y a malheureusement aussi, c'est un point de vue, mais le marché des esclaves. Et au marché, on pouvait malgré tout racheter les esclaves, faire le rachat des esclaves. Et c'est ce mot « rachat » qui a donné la notion de « rédemption » qui est utilisée par Paul. Et dans sa pensée, Paul, eh bien, tous les humains sont esclaves du péché, mais rachetés par grâce au travers de la croix du Christ. Troisième lieu, troisième scène, le palais de justice, qui en fait était parfois la place du village où les anciens se réunissaient pour juger ou justifier un prévenu. C'est pourquoi Paul parle de la mort de Jésus comme d'une justification. C'est la foi en Christ, mort et ressuscité, qui rend possible cette justification. Finalement, il prend la peine sur lui, il l'assume à notre place d'une certaine manière. Enfin, quatrième lieu, quatrième scène, et c'est là qu'on en revient à la réconciliation, la famille, au sein de laquelle, naturellement, il arrive qu'il y ait des conflits et que, finalement, on se réconcilie, que ce soit dans le couple, entre frères et sœurs ou entre les générations. Se réconcilier implique que l'un fasse le premier pas pour renouer le fil de la relation. Par sa mort, Jésus renonce à avoir raison. Mais il s'abaisse d'une certaine manière pour rendre possible cette réconciliation avec Dieu. Alors, ces quatre images ont généré de grands mots théologiques que Paul utilise, expiation, rédemption, justification, réconciliation, qui sont autant de moyens pour nous d'essayer de comprendre le sens de la mort de Jésus. Mais finalement, le plus actuel, le plus compréhensible dans notre contexte, est probablement celui de la réconciliation. Dieu qui désire renouer le fil du dialogue et susciter la rencontre.
Finalement, Gabriel, avec ce terme réconcilié, on a un sens tout à fait contemporain qui est de faire la paix.
Oui, dans le texte d'Éphésiens 2, l'apôtre Paul associe effectivement la réconciliation à la paix. Mais pas n'importe quelle paix. Trop souvent, comme le dit Lanza del Vasto, on appelle guerre la guerre qui éclate et on appelle paix la guerre qui se cache. La véritable paix n'est pas uniquement l'absence de guerre. Il n'y a de véritable paix que s'il y a rencontre, dialogue, accord mutuel, conjugaison des libertés de chacun. La paix, ce n'est pas la loi du plus fort, mais une harmonie partagée, une vraie communion. Nous évoquions la réconciliation entre Jacob et Ésaü. Quand les deux jumeaux se sont brouillés, chacun est parti de son côté. Chacun vivait dans une pseudo-paix, où, disons, loin l'un de l'autre, ils étaient dans la tranquillité, mais pas réconciliés pour autant. Il en est parfois de même dans nos relations. Il est si facile d'ériger des murs, même virtuels, entre les êtres ou même avec Dieu, et de se contenter de ce statu quo. Que l'on soit dans un conflit ouvert ou dans une pseudo-paix, Paul parle de détruire le mur de séparation. Et l'exemple du Christ est une invitation à oser prendre l'initiative, afin de contribuer à des situations restaurées, à des relations réconciliées. Il a fallu 20 ans pour Jacob avant d'oser faire le pas de la rencontre. Et surtout, il a fallu qu'il change son regard pour oser voir son frère différemment. Cela a pris du temps, et surtout l'influence de Dieu dans sa vie. Peut-être que nous pouvons apprendre de tous ces récits et ces textes, et accepter la différence comme une richesse. Oser faire le pas de la rencontre, accepter de ne pas forcément faire valoir son droit ou sa raison, et donc être au bénéfice de l'autre. Voilà l'essence biblique de la réconciliation. Tout un programme qui peut ressembler à un chemin de croix, mais c'est un chemin que Jésus a ouvert et qu'il vaut la peine de suivre.
Merci Gabriel. Alors après toute cette réflexion sur la réconciliation d'un point de vue biblique et puis d'un point de vue musical que nous avons vu tout à l'heure avec le quatuor Colorback, peut-être vous nous proposez de terminer cette émission avec une courte prière.
Seigneur Dieu, malgré nos limites et nos manquements, tu nous aimes. Et en Jésus-Christ, tu as brisé le mur de séparation, nous réconciliant ainsi avec toi. Que nous sachions t'accueillir dans nos existences pour vivre l'harmonie que tu nous proposes. Nous voulons aussi nous inspirer de toi et te demander de nous aider à être des artisans de paix autour de nous, de véritables acteurs de la réconciliation. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant. Un grand merci à Béatrice Rebel Petit et à Julien David Petit du quatuor Colorback qui sont venus partager leur travail dans cette émission autour de la réconciliation. Et un grand merci également à Gabriel Monet, professeur de théologie pratique à la faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève. Merci également à Laetitia Coya et à Pascal Bénard pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pourrez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Vous y retrouverez la réécoute ou l'essentiel du texte de ce que vous avez pu entendre ce matin. Vous pouvez aussi demander ce texte par courrier en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à suivre dans un instant le journal, puis Talmudique avec Marc-Alain Wachnin. Bon dimanche à tous.